Si dans Drôle de métier, Michel Aragon nous a fait vivre ses années d'apprentissage à Nantes, avec Sophie Mokhtari, nous évoquerons le monde paysan de sa jeunesse, un monde disparu, renfermé sur lui-même, économe de tout, même de sentiments. Nous nous poserons la question, est-ce que ces lieux communs s'appliquent encore aujourd'hui? Ou alors, si la météo le permet, nous pourrions évoquer une fleur à la main, la simplicité des jours, la beauté de la terre. Sophie Mokhtari est agrégée en lettres et son intervention a pour titre Michel Aragon et le monde paysan. Bienvenue.
Donc j'arrive en fin de course, en fin de journée, et j'espère vraiment ne pas vous garder en otage parce que je sais que c'est très désagréable et il est tard. Et puis vous avez eu de très belles présentations auparavant, donc vous avez sans doute la tête déjà bien pleine. Alors je vais faire un petit peu plus court que ce que j'avais prévu. Voilà la bonne nouvelle. Et en même temps, on va essayer quand même de parcourir ensemble, je dirais, une expérience de l'écriture romanesque et de la découvrir sous un autre jour. C'est vrai que j'avais pour projet, et j'ai toujours pour projet, de réfléchir plutôt avec vous, de quelques romans qui ont pour thème central la vie à la campagne, la ruralité, les paysans. On en a déjà parlé pas mal auparavant. Mais moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est l'angle vraiment de l'écriture. J'ai envie de dire qu'on a, avec Claire notamment, entre autres, abordé des questions de fond qui sont des questions idéologiques, qui sont des questions de combat politique aussi. Moi, je vais essayer de faire un autre pas de côté en abordant la question finalement que pourrait se poser une personne qui voudrait écrire un roman sur la ruralité. Mais oui, mais comment? Et de quel droit? D'où parler, finalement? D'où trouver sa légitimité? On en a parlé un petit peu aussi dans d'autres interventions. Mais je vais revenir là-dessus. Et puis, finalement, que représenter dans ces romans? Et comment? Alors, c'est vrai que j'avais prévu aussi un petit visuel, là, qui n'est pas là. Mais il me paraît intéressant de toujours articuler, et encore plus pour Michel Aragon, la réflexion sur l'écriture littéraire, romanesque, avec la question de l'art au sens large, c'est-à-dire des arts visuels aussi. Pour moi, Michel Aragon, et d'ailleurs pas que pour moi, c'est quelqu'un qui, de toute façon, de manière simultanée, a questionné et travaillé sur ces différents champs en même temps. Donc, si je parle aujourd'hui là de romans sur la ruralité, j'ai aussi, et j'espère vous aussi, à l'esprit des figurations de cette ruralité dans des œuvres picturales et, pourquoi pas, dans des œuvres d'art visuel contemporaines. Et en fait, si on a ça à l'esprit, on voit tout de suite que selon le point de vue qui est le nôtre, selon notre personnalité, nécessairement ces représentations vont varier, ça va de soi. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand, d'une même personne, ces représentations peuvent donner lieu finalement à des modulations très fortes. Et je crois que c'est le cas, en fait, de Michel Aragon. Et c'est ce que je trouve plutôt passionnant pour ce qui le concerne. Voilà. Alors, je voudrais aussi faire un lien qui est tout à fait, à mon avis, important avec la vie, pas que les arts, la vie en tant qu'expérience concrète. Et là, évidemment, je pense à une belle rencontre de ce jour, et ce n'est pas la seule, mais quand même, celle qui m'a permis de parler de l'éducation populaire avec Paul Masson. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Parce qu'en fait, le projet de l'éducation populaire, Paul Masson est historien de l'éducation populaire, hein. C'est évidemment de rapprocher la culture de la vie. Or, s'il s'agit de réfléchir maintenant des romans de la ruralité, de la façon dont ils sont réalisés, créés par un homme, Michel Aragon, c'est aussi articuler cette réflexion avec ce qu'est la vie et en quoi sa propre vie aussi est présente dans son écriture, son expérience de la vie. Alors, je vais donc, d'une part, me cantonner dans un parcours qui comprendra encore un petit peu, mais pas trop, les coquelicots, dont on a beaucoup parlé, son revenu, mais un petit peu plus maintenant, la ferme d'en haut, et aussi le cocher du Bois-Roux, et puis, en filigrane, celui-ci dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, Un rossignol chantait, qui est en fait un roman, alors même qu'il apparaît plutôt comme un récit autobiographique. C'est avec ma sœur aux yeux d'Asie, avec l'accent de ma mère, le troisième grand roman ou récit autobiographique de Michel Ragon, mais vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est écrit roman. Et c'est vrai que je trouve intéressant d'articuler la réflexion qu'on va mener sur ces romans de la ruralité avec des éléments qui sont ici présents et qui nous apportent, me semble-t-il, quelques clés de lecture et pourquoi pas de réflexion sur ce que c'est qu'écrire sur la ruralité pour Michel Ragon. Alors, je vais commencer d'abord par réfléchir et enfin, vous donner quelques éléments de trajectoire dont on a déjà parlé un petit peu, donc ça va être très rapide, de trajectoire qui sont des éléments de trajectoire biographique pour commencer. C'est vrai que ça a été dit ce matin notamment, mais Michel Ragon, c'est quelqu'un qui évidemment est né, on va arrêter de le dire, mais d'ailleurs à Marseille, mais qui a grandi à Fontenay-le-Comte, donc dans le sud Vendée, dit Bas-Poitou, et qui ensuite a passé son adolescence du côté de Nantes. Alors, ce qui est important dans ce qu'on évoque là, c'est évidemment l'ancrage dans le Bas-Poitou, avec évidemment ses paysages, sa nature, et surtout les traditions qui l'entourent, des traditions paysannes, un rapport à la terre, à son exploitation, qui est en fait qu'il a pu observer et dont il a pu aussi voir, je dirais, des figurations chez des personnes de son environnement, pas directement proche, puisque ses grands-parents, comme vous le savez peut-être déjà, n'étaient pas à proprement parler exploitants agricoles, mais ils travaillaient comme chambrière pour sa grand-mère, cocher hein, pour son grand-père, donc domestique pour un châtelain. Puis ensuite, ils ont été ils ont quitté ce châtelain, ils ont travaillé, je dirais, pour eux-mêmes, difficilement. La grand-mère, à un moment donné, a été lavée des draps, notamment. Le grand-père a essayé de s'occuper d'une petite vigne, par exemple. Bon. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une expérience de l'exploitation agricole pour autant. Et puis, il y a l'environnement dans Fontenay-le-Comte, dans cette proximité familiale, des artisans qui sont des oncles ou des cousins de la famille et que le jeune Michel Ragon a pu observer de près, d'où ça a été aussi évoqué, l'intérêt qu'il porte aux outils, au travail manuel et qui, en fait, contribue, je dirais, à nourrir son imaginaire sur la ruralité. Donc ces éléments constituent en fait l'expérience biographique, j'ai envie de dire, qui directement va pouvoir permettre à cet homme, Michel Ragon, de parler de la ruralité. Bon, alors ça, c'est une chose, mais est-ce que ça suffit pour être un écrivain? Sans doute pas. Et c'est là où, à côté de ces éléments d'une trajectoire biographique, maintenant il faut qu'on évoque les éléments qui concerneraient plutôt la trajectoire littéraire, les filiations, hein, les héritages littéraires qui ont constitué une identité d'écrivain de la ruralité pour Michel Ragon. Ça va, vous me suivez jusque-là dans mon petit raisonnement? Alors justement, on a parlé beaucoup d'Henri Poulaille, donc je vais abréger. Je vais d'abord quand même, pour ma part, quand même évoquer ce que Michel Ragon lui-même, appelait ses deux divinités tutélaires, donc c'est quand même pas rien, c'est Rousseau et Diderot. Je sais bien qu'il y a Rabelais, comme vous sans doute, on pourrait citer évidemment Michelet, on pourrait citer Peggy, Mirbeau, ça, on en a parlé, mais quand même, ça me paraît intéressant pour cette écriture d'évoquer ces deux figures. Pourquoi? Parce que du côté de Rousseau, évidemment, on a, je dirais, tout l'héritage de la poésie et de la sensibilité que l'on va notamment retrouver dans les romans biographiques, mais qui sont présents dans certains des romans de la ruralité. Alors, peut-être pas celui-ci, mais plutôt les autres, et on va voir un petit peu pourquoi. Et puis, évidemment, ça me paraît important aussi d'évoquer la figure de Diderot, parce que Le procédé même d'écriture romanesque repose, et vous le savez aussi, on en a parlé ce matin, sur un travail d'enquête, sur un travail de dossier, sur un travail en fait d'encyclopédiste, qui est évidemment nettement inspiré par l'entreprise que Diderot a dirigée avec son encyclopédie raisonnée. Et je pense que, c'est une idée qui m'est venue, mais je pense que Michel Ragon a dû aussi feuilleter cette encyclopédie, notamment dans ses articles qui concernent certains métiers, certains outils, et que cela a sans doute contribué à constituer les fameux dossiers d'écriture qui ont précédé la rédaction elle-même. Et je trouve intéressant donc de les évoquer. Alors, si je suis un ordre chronologique après ces deux divinités tutélaires, et je vais bien sûr passer sous silence pas mal de gens, hein, je fais un grand raccourci, je vais effectivement me diriger du côté du groupe des écrivains de la littérature prolétarienne, parce qu'effectivement, ce groupe compte énormément. Ce qui me paraît intéressant dans la figure, pour ma part, d'Henri Poulaille, c'est effectivement le fait que Henri Poulaille, Sarah El-Matari en a parlé, possédait une documentation, et je cite le jeune Michel Ragon à nouveau, qui disait « Poulaille possède la documentation la plus forte qui existe certainement sur le peuple à travers les âges, les métiers, la littérature du peuple au Moyen-Âge, etc. Il a toutes les photos des écrivains prolétariens français et étrangers, ses camarades. » Donc on retrouve exactement finalement le même engagement, j'ai envie de dire, pour la documentation qui croise l'écriture romanesque dans ce groupe des écrivains prolétariens et surtout donc à travers la figure d'Henri Poulaille. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans cet héritage-là, c'est le fait que, comme vous le savez sans doute, on considère ces écrivains prolétariens d'une manière très élitiste, hein, ça va de soi, comme des auteurs d'une littérature de seconde zone. Hein, c'est ainsi dans l'institution, d'où le peu de reconnaissance qui a été faite pour ces auteurs. Alors, seconde zone, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, évidemment, moi je trouve intéressant de questionner quand même cette notion de seconde zone, parce que peut-être qu'elle a pesé aussi sur Michel Ragon et sur la production des fameux romans de la ruralité, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut comprendre cette littérature de seconde zone comme une littérature qui s'oppose à la littérature d'une classe dominante, certes. On pourrait se dire aussi que c'est une littérature qui constitue une incongruité pour la droite comme pour la gauche. On pourrait se dire aussi qu'elle a été jugé sans doute selon des critères plutôt bourgeois, hein, culturels bourgeois, et que du coup elle ne trouverait pas forcément ses lecteurs en raison donc du circuit des maisons d'édition, bien que on le sait, Michel Ragon a eu la chance évidemment d'être édité par Albin Michel. Et puis la question, et on le sait, c'est que pour les écrivains de la littérature prolétarienne, cette littérature devait être produite dans la misère et la pauvreté, si je puis dire, ou une forme d'insécurité sociale. Bon, alors, Michel Ragon l'a été, mais au moment où il rédige les romans de la ruralité, ce n'est plus du tout le cas, puisque les romans que j'évoque, en fait, sont l'œuvre d'un homme qui est d'âge mûr, qui a tout un parcours et qui a, heureusement, je dirais, pu voir sa vie s'améliorer. Là, en l'occurrence, pour rappel, donc Les Coquelicots, je crois qu'on l'a rappelé ce matin, c'est de 1996. La Ferme d'en haut, donc, on est en 2005. Et Le Cocher du Bois Roux, c'est 1992, je crois. Mais vous voyez, en tout cas la période, hein, un an ou deux près, c'est pas grave, mais on voit que on ne peut pas dire en tout cas que ces écrits sont l'œuvre d'un écrivain prolétarien, tout à fait comme je l'évoquais à l'instant. Donc il y a déjà un petit décalage, et je trouve que c'est intéressant de le mentionner, même s'il y a évidemment dans sa construction d'auteur l'affiliation avec ce groupe des écrivains prolétariens. Mais je pense qu'il ne faut pas nier ce décalage, parce que je le trouve intéressant. Alors, ensuite, et ça me paraît aussi important, il y a la filiation ou la transmission littéraire qui vient, elle, des écrivains paysan. Parmi eux, évidemment, on a cité Émile Guillaumin, Thierry Maricourt en a parlé, à très juste titre. Émile Guillaumin, dont on sait que Michel Ragon entretenait donc une correspondance très tôt, avec lequel il entreprenait une correspondance très tôt, il me semble, dans les années 45 déjà. Je rappelle juste que La vie d'un simple, son roman le plus célèbre et lumineux, date de 1922 pour sa première publication, mais qu'il a fait l'objet de plusieurs éditions avec quelques correctifs. Toujours est-il que Michel Ragon, dans sa trajectoire de construction de l'écriture, a vraisemblablement été largement structuré par l'expérience de lecture que fournit La vie d'un simple d'Émile Guillaumin. De fait, je fais l'hypothèse, je ne parle pas d'autorité, moi je me lance des hypothèses, des suggestions, des questionnements, je peux me tromper, mais je fais l'hypothèse que La vie d'un simple constitue une forme de sous-texte fondateur et quasiment permanent dans l'ensemble de son œuvre romanesque qui a donc pour cadre la ruralité. C'est tout à fait sidérant pour ma part de lectrice de remarquer que le dernier de ses romans de la ruralité, donc celui-ci, La ferme d'en haut, est peut-être celui qui contient le plus grand nombre de réminiscences de l'œuvre d'Émile Guillaumin, et pas seulement La vie d'un simple. Donc c'est quand même important de le notifier, et ça montre bien la richesse que constitue cette expérience de lecture préalable. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré comme motif qui constituerait en quelque sorte ce sous-texte pour sa pratique d'écriture? Bon, eh bien, il y a finalement l'idée dans la peinture de la ruralité, du travail des agriculteurs, la question du labeur de chaque heure. Les écrivains, d'ailleurs, sont des travailleurs forcés, enfin, ils nous les présentent, et à juste titre, comme des personnes qui ne cessent en fait de travailler constamment, tout le temps, toute leur vie. Donc, le labeur de chaque heure, les travaux, les cycles des saisons, les événements douloureux de la vie, le fils requis par le service militaire, l'épouse aigrie et vieillissante. Je ne sais pas si notre féministe est toujours là, mais c'est un motif qu'on trouve déjà aussi chez Émile Guillaumin. Le vieillard impotent qu'il faut soigner, la maison tente sourde des bruits. On est dans des huis clos, il est parfois difficile de se supporter. Bref, les querelles d'intérêt entre les frères, devenus chefs de famille à leur tour, tous ces éléments que l'on retrouve dans La ferme d'en haut, dans le cocher à travers les frictions qui amènent certains personnages parfois dans les dérives du meurtre ou d'autres violences. En fait, on voit qu'on peut les mettre en résonance avec ce que déjà Émile Guillaumin présentait dans ses œuvres. Autrement dit, je fais l'hypothèse que Émile Guillaumin, finalement, pour un homme, Michel Ragon, qui n'est pas agriculteur, mais qui connaît la ruralité, qui n'est pas tout à fait légitime, en fait, pour écrire sur les paysans, puisqu'il n'est pas lui-même paysan, finalement, c'est la personne, peut-être, qui lui a donné, ou qui, entre autres, a contribué à apporter cette légitimité. Alors, il l'a, lui, Michel Ragon, finalement, dit plusieurs fois, indirectement, en disant et en rendant hommage à l'ensemble de ces écrivains donc comme Henri Poulaille, mais aussi Guillaumin et d'autres écrivains paysans, en expliquant que c'est grâce à eux finalement qu'il s'est mis à écrire, que c'est eux qui lui ont fourni le modèle qui a en fait permis ce passage, ce saut dans le vide que constitue le passage de la lecture à l'écriture. Si eux l'ont fait, pourquoi pas moi, en fait, tout simplement. Et pourquoi pas vous? Alors, les autres écrivains, paysans, il faut en parler. Il y a Jean Robinet, qui a écrit Compagnon de labour lorsqu'il était en détention en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui évoque à la première personne du singulier son amour et son attachement aux chevaux qui ont accompagné toute son activité paysanne. Il y a aussi Marius Nogues, qui, dans Petite chronique de la boue en 1957, lui, partageait son expérience de paysan en écrivant Et ça, c'est un petit détail important, à la troisième personne du singulier. Alors, je précise ça parce que je pense que la question du point de vue à partir duquel on écrit, le point de vue narratif, a certainement, est un enjeu fort finalement lorsqu'on analyse ces romans que Michel Ragon va ensuite créer. Parce qu'après tout, à quelle personne les écrire ? Est-ce que je vais écrire comme Émilie Yeomain avec un dispositif qui est en fait assez fin, c'est-à-dire que je donne la parole à un personnage qui n'est pas moi, mais qui me ressemble complètement, à tel point qu'on peut les confondre. Or, en fait, son narrateur qui s'appelle Thiénon, qui dit « je », qui parle de son métier d'agriculteur, et parfois d'ailleurs en lisant le livre, on oublie que c'est Thiénon qui parle, on a l'impression que c'est Émile Guillaumin, hein, donc on ne sait plus où se trouve la différence entre les deux. Bah, finalement, ce petit subterfuge est très habile parce qu'il donne à Émile Guillaumin le petit recul nécessaire qui va lui permettre d'ailleurs de produire d'autres romans sur la ruralité en évoquant certainement d'autres enjeux, d'autres questionnements, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de confusion voulue et féconde qu'il a choisie. Jean Robinet, lui, est vraiment directement dans un récit du partage autobiographique, de la... C'est plus que la confidence, en fait. C'est vraiment un texte très émouvant où il nous cite les noms les petits noms de tous ces chevaux et en décrivant dans le détail la personnalité de chacun. Donc on est dans une proximité avec une émotion et une sensibilité qui est la sienne très forte. Avec Marius Nogues, donc, c'est aussi le partage d'une expérience. Ce que je remarque chez Marius Nogues, c'est qu'il y a une réflexion très riche finalement, très critique à l'égard du fait d'être lui-même écrivain paysan et d'être lui-même peut-être, affilié à ce groupe, les écrivains paysans, ou au contraire, de vouloir s'en émanciper. Et de fait, Marius Nogues n'aimait pas l'appellation d'écrivain paysan, lui. Ça, je trouve ça drôlement intéressant. Parce qu'après tout, il était totalement légitime pour pourtant la porter avec beaucoup de dignité et de fierté. Eh bien non, il a dit, j'ai voulu simplement essayer, en écrivant, hein, essayer mon optique. J'adore essayer, c'est intéressant ce mot. Envers et contre certains professionnels de l'écriture. Donc il y a un défi. Voilà. Qui ont délibérément, d'une façon outrageuse, je dirais même abjecte, dénaturé les vertus, les vices, les mœurs paysannes. Mes personnages, dont je fais partie intégrante, ne sont pas originaux, ni exagérés, ni meilleurs, ni pires que ceux que les volontaires du mépris et de la merde, à tout prix, ont essayé malignement, en protestant, le plus souvent de leur amour, de salir. Et lui, donc, ne voulait pas. Il considérait qu'il y avait quelque chose en fait de discriminatoire dans cette appellation d'écrivain paysan. Bon. Alors, en tout cas, ils sont tous les plumes qui écrivent à travers celles de Michel Ragon, d'une certaine manière, puisque, comme on l'a dit, c'est un homme de livres, fait de livres, structuré par les livres. Son identité, peut-être, est celle de ses lectures. D'autant plus que, comme le disait le dernier poème qui a été lu, c'est un homme sans pays, c'est un homme qui justement a une béance et qu'il faut trouver dans cette béance du sens et peut-être une survie. Et je pense que la survie est dans les livres et vraisemblablement dans toutes ces courroies que j'évoquais. Alors, en tout cas, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a, évoqué cette chaîne en fait de transmission, peut-être qu'on peut maintenant observer vraiment les travaux et les écrits qui sont ceux de Michel Ragon, en ayant à l'esprit ces éléments et puis en essayant de voir aussi les alternatives qu'il propose par rapport à ces éléments. Le temps passe très vite, mais je vais quand même aborder un petit peu donc, chacun des trois livres. Le cocher du Bois-Roux, donc, que j'évoquais, donc 1992, sixième roman vendéen. Si je comprends le roman des sables, ce qui est un petit peu abusif, mais il y a le Lenoir, donc il est vendéen. Alors, en tout cas, ce que je trouve intéressant, du point de vue qui est le mien, dans Le Cocher du Bois Roux, c'est que c'est une aventure de l'écriture qui n'a rien à voir avec justement tous les écrivains paysans que j'évoquais. C'est même, et c'est incroyable en fait, plus je le lis, je trouve c'est, comment vous dire, c'est une sorte de, on dirait un apax, enfin dans une forme d'audace, hein, d'écriture, de création, puisqu'en fait c'est un ouvrage fantasmagorique qui nous donne à voir des figures cauchemardesques, mythologiques, qui sont emplies de visions hallucinatoires. C'est un roman à la sensibilité extrêmement tourmentée. D'ailleurs, évidemment, ce monde sinistre, effectivement, à la fin, se noie et se trouve empêtré dans une vision assez horrible, qui est celle d'un enlisement multiple, à la fois dans les eaux maléfiques des marais vendéens. D'ailleurs, je tiens à le dire, elles ne sont pas maléfiques. J'ai une petite ascendance qui me permet aujourd'hui de m'opposer à cette vision qui est évidemment limitée. Ils ne sont pas uniquement maléfiques quand même, mais là, dans le roman, c'est le cas. Et en plus, il y a évidemment la terrible mort de tous ces corps, corps de cheval pour l'un des chevaux, mais aussi corps humain qui va se trouver envahi de sangsues et mourir donc dans cet état d'enlisement et de vampirisation par tous ces insectes, toutes ces créatures. Donc, on est dans Le Cocher du Bois Roux. C'est un roman de la ruralité, mais quel drôle de roman de la ruralité. Et quand on y réfléchit, c'est un roman plutôt d'une vision, encore une fois, fantasmagorique, qui certes présente un monde ancien, un monde qui est en train de disparaître, le monde de la féodalité, mais qui pour autant, et ça c'est aussi quelque chose de saisissant, met à côté de ces visions, à côté de cet univers un peu halluciné, d'autres références qui elles sont extraordinairement réalistes et je dirais très judicieuses. Lesquels ? Bah, déjà, Jaurès, oui, d'accord. Ernest est le personnage qui est un peu le porte-voix hein, des idées révolutionnaires de Jaurès. Mais Victorine, il faut en parler, voilà une femme importante. Et quelle femme ! Victorine, dont on nous dit, c'est la sœur d'Ernest, l'autre fille du Marais. Victorine, c'est une sorte de Séraphine Pageot. Alors, vous allez me dire, c'est qui celle-là, Séraphine Pageot ? Personne ne connaît ici, si ? Oui, bravo. Moi, je ne connaissais pas. J'apprends tout ça en lisant Michel Ragon. Hein. Donc, voilà. En tout cas, Séraphine Pageot, donc ancienne communarde, propagandiste, anarchiste, eh bien, c'est un petit peu l'ombre de Victorine. C'est vrai que Victorine nous est présentée, en fait, comme une sorte de fille de Séraphine Pageot, d'une certaine manière. Donc ça, c'est pas anodin. Et puis l'autre chose aussi que je voulais évoquer, mais je vais réduire évidemment les choses, hein, c'était le fait que dans le même roman, on nous parle d'une mine, la mine de Fémoreau, et de ces mineurs qui, en 1923, ont fait grève, après un très mauvais coup de grisou. Ces mineurs qui venaient d'ailleurs de différents pays, de Pologne et d'Afrique du Nord, et bien, ils étaient là aussi tout près, en fait. Et ils sont dans ce roman. Donc, drôle de roman de la ruralité, roman à la fois dans la fibre d'Edgar Allan Poe, mais aussi voilà, roman politique, roman libertaire, vous l'avez compris, et roman de la ruralité quand même. Bon, alors, drôle de roman, je ne sais pas si c'est un roman de la ruralité finalement. Mais... alors, continuons. Les Coquelicots, on en a beaucoup parlé, donc je vais aller vraiment très très vite, vous l'avez vu, c'est le roman le plus politique, et ce qui est drôle, moi c'est ça qui me frappe, c'est que c'est censé être le troisième volet du grand cycle dit vendéen, puisqu'on retrouve effectivement les descendants d'Auchagne, d'Auchagne en vendéen c'est du patois vendéen, Duchesne bien sûr, alors certainement, bon d'accord, il y a ces personnages, mais en fait, on oublie très très vite l'ascendance de d'Auchagne, elle est quasiment balayé par les enjeux politiques qui ont été évoqués par Claire de long en large, donc je n'y reviens pas. Et donc on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi finalement dire que c'est les fils, de, les petits-fils, ou les, enfin bref, que de Chagne est leur ancêtre, puisque finalement on ne retrouve quasiment plus cette fibre romanesque qui est aussi tout le charme des mouchoirs rouges de Cholet. Cette fibre, je dirais même, épique des mouchoirs rouges. C'est le contraire. C'est le contraire totalement de l'épopée, hein, les Coquelicots. C'est une écriture qui est de constat, de réquisitoire, qui est documentée et donc qui n'a strictement rien à voir. Et pour autant, bah oui, c'est la ruralité qui est bien au cœur de ce roman. De très politique, documentaire, je l'ai dit, presque journalistique. Dans les Coquelicots, en fait, ce qui m'intéresse dans la fabrique d'écriture de Michel Ragon, c'est d'observer qu'il endosse, en fait, à la fois sa trajectoire d'urbaniste, de penseur de l'urbanisme, pour appuyer le discours des paysans en souffrance, mais aussi celle d'un sociologue qui observe notamment la misère affective qui sévit dans la campagne, qui observe en historien tout ce qui a amené finalement à ce désastre écologique et à ce désastre de ce métier de paysan. Et puis en psychologue, puisque finalement on voit bien comment ces personnages sont dans des souffrances psychologiques qui ne sont pas niées, loin de là, et qui sont évoquées à de multiples reprises. Bon, alors vous voyez que entre le cocher du Boisroux, les Coquelicots, on a finalement des expériences d'écriture qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, à tel point qu'on pourrait même se demander vraiment, mais est-ce la même personne qui a écrit ce livre, vous voyez ? Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort. Je vais maintenant aller vite vers La Ferme d'en haut. Ça va, là, je vous ennuie pas trop ? Vous dormez pas ? Non, bon. Alors, La Ferme d'en haut, je termine. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, étrangement le dernier roman de la ruralité. Et lui aussi donne à observer une expérience de l'écriture tout à fait étonnante. Je vous disais que pour moi, c'était curieusement le livre qui contenait le plus de réminiscences de l'œuvre d'Émile Guillaumin. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans le tableau de la vie rurale, dans les chroniques réalistes de cette vie rurale, j'ai pensé au tableau de la vie champêtre d'Émile Guillaumin, dans l'histoire du jeune paysan qui s'engage dans l'armée. Pour s'élever aussi dans l'échelle sociale, on trouve des réminiscences d'un beau texte d'Émile Guillaumin qui s'appelle Albert Manceau. Dans l'évocation de la difficulté tragique de s'affranchir de sa condition paysanne, de sortir de son milieu, on trouve aussi des résonances avec un texte d'Émile Guillaumin qui s'appelle Baptiste et sa femme, ainsi de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit évidemment, et loin de là mon propos, qu'il y aurait un phénomène, j'ai envie de dire, de plagiat. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que ces éléments de motifs romanesques vont apporter le tremplin de l'écriture et de la création que va être celui-ci. Parce que La Ferme d'en haut, c'est vrai, c'est un texte tout à fait étonnant lui aussi, dans la mesure où, à côté du propos sur la ruralité, sur la fin d'un monde, et donc, je dirais, cette espèce de mélodie mélancolique qui est très, très présente et qu'incarne le personnage principal d'Gustave, eh bien, il y a un autre propos qui concerne la coloniale. Et là, effectivement, on se dit, tiens, il fallait oser. De fait, dans La Ferme d'en haut, vous le savez maintenant, je crois qu'on en a parlé un petit peu, mais il y a un personnage qui est le fils de Gustave, qui a été longuement soldat dans les colonies en Afrique et qui revient en famille, accompagné d'une épouse qui s'appelle en arabe La Vie. Et c'est pas anodin, d'ailleurs, dans ce monde qui est en train de mourir, d'apporter avec soi la vie, Aïcha. Et Aïcha, donc, c'est une femme qui n'a rien à voir avec ces gens et qui amène un autre regard sur cette ruralité, qui amène finalement à révéler des vérités sur cette ruralité et sur sa souffrance, différente de celle des coquelicots, différente aussi de celle du cocher, même si on trouve des choses. Et cette réalité, figurez-vous, que je vais maintenant la mettre en relation avec le rossignol. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce qui était le point nodal récurrent dans la ferme d'en haut, c'est la question des enfants gagés. Des enfants de fermiers qui ont été arrachés à leur famille très tôt, et de ces enfants qui, d'une certaine manière, ne savent plus finalement quelles sont leurs origines, de quel pays viennent-ils. Et ça, c'est quelque chose qui, visiblement, a, je dirais, marqué l'imaginaire romanesque de Michel Ragon d'une façon extrêmement sensible, douloureuse, et qu'on retrouve dans la ferme d'en haut, aussi dans le cocher quand même, il faut le dire aussi. Et évidemment, on comprend en lisant un rossignol chantait combien ce sujet est important, puisque de fait, je vais juste vous lire quelques tout petits passages. On trouve par exemple dès l'entrée dans le rossignol, d'où venaient-ils donc ces deux-là, sans famille, sans lieu, sans histoire, sinon l'histoire du château où ils avaient été domestiques, sinon l'histoire de leur maître, ce baron. Et de fait, ces deux grands-parents étaient gagés, ont été des enfants gagés très tôt. Un peu plus tard, dans le livre, page 128, on nous dit en réalité, ce monde rural, ce monde qui paraissait sommeiller, qui paraissait inaltérable, tempéré, dolent, était secoué de hurlements. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que je pense sincèrement, quand vous allez à l'écoute de la Vendée, vous le percevez. C'est un monde de hurlements. Moi, je le dis. Page 174. On a aussi un autre élément de compréhension très important. Grand-père, enfant trouvé, vieillard perdu. Cette phrase, elle est terrible. Et elle en dit long aussi sur cette ruralité et sur la façon que Michel Ragon va avoir, lui, en tant que romancier, de l'aborder. Et je termine par une dernière petite citation, page 206, toujours dans Rossignol chantait, page 206, c'est tout à la fin, en fait, hein, du roman. « Tous les deux, mes chers vieux, venus d'on ne sait où. » Trois points de suspension. Alors, je pense que ces considérations autobiographiques sont importantes pour percevoir, j'ai envie de dire, le travail du romancier. Je pense que dans les points de suspension s'ouvrent les brèches qui vont permettre aux hallucinations, aux visions cauchemardesques de pouvoir être exprimées. Je pense aussi que le drame qui se joue, l'inquiétude qui circule, l'amorosité quand même, hein, dont témoignent les coquelicots, la ferme d'en haut, et je ne veux pas non plus être dans la psychologisation réduite, mais quand même, il y a dans, si vous voulez, cette expérience autobiographique, quelque chose qui, à mon avis, va être extrêmement déterminant pour l'expérience de l'écriture romanesque de Michel Ragon. C'est l'articulation de la vie avec la culture. Un homme de livres, certes, un homme de vie et de souffrance et de hurlements aussi. Et donc, je crois que, pour revenir à mon propos sur l'éducation populaire, Michel Ragon est un écrivain, vous le savez, émancipateur, comme l'éducation populaire l'est. Et de fait, je pense sincèrement que c'est avec cette vision, cette posture, qu'il a trouvé finalement cette légitimité d'écrivain de la ruralité. Voilà, dit rapidement.
On a un petit point, puisqu'on n'a pas été les maîtres de l'horloge. On a un petit point de timing. Donc, la question qu'on pose, et je suis désolé pour Sophie Mokhtari, mais est-ce qu'on a le temps de faire un débat après, d'avoir la, on peut ne pas faire la période de questions. Et pareil pour les suivants, puisqu'il y a deux interventions encore, pour pouvoir tenir le timing, avoir le temps de discuter par petits groupes après, autour d'un verre, et pouvoir partir vers 20h. C'est nous qui sommes responsables de ce dérapage, puisqu'on avait un timing, on n'a pas pu le respecter.